VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du jeudi 16 juin 2022. Avec vous, Eric Manilakiza, voici d'abord le sommaire. En RDC, les autorités décident de combattre la chasse aux rwandophones.
Nous condamnons l'agression, nous condamnons la rébellion, nous condamnons la présence de groupes armés.
Sahel, des ONG dénoncent la stratégie du tout militaire des autorités. Au Nigeria, la police sauve 35 adolescentes exploitées comme esclaves sexuelles. Le président français, le chancelier allemand et le premier ministre italien visitent de soutien à Kiev. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Les autorités en République démocratique du Congo décident de combattre la stigmatisation et la chasse à l'homme alors qu'une rébellion à dominante Tutsi soutenue par le Rwanda selon Kinshasa occupe plusieurs localités de l'Est. C'est ce qui ressort d'une annonce faite à la télévision d'État RTNC ce jeudi. Le point avec Nani Tetalani.
Le Conseil supérieur de la Défense, présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a instruit le ministre de l'Intérieur et le chef de la police à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation et la chasse à l'homme lors des manifestations contre le Rwanda et le M23, a déclaré le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, à la télévision d'État. Le Conseil exige aussi du Rwanda de procéder au retrait immédiat du sol congolais de ses troupes opérant sous couvert du groupe terroriste M23. Par ailleurs, le Conseil invite le gouvernement congolais à suspendre tous les protocoles d'accord, accords ou conventions conclus avec le Rwanda. Lors d'une manifestation contre la rébellion du M23 mercredi à Goma dans le Nord Kivu, des violences ont visé des personnes rwandophones, c'est-à-dire Hutu et Tutsi, ou considérées comme telles en raison de leur apparence physique. Mardi à Kisangani, dans la province du Tsopo, un lieutenant-colonel de l'armée congolaise, rwandophone, a été brutalisé par la population et des policiers. La résurgence du M23 et l'intensification des combats ces dernières semaines entre ces rebelles et les FRDC ont ravivé les tensions entre Kinshasa et Kigali, la RDC accusant le Rwanda de soutenir militairement la rébellion du M23.
Au Mali, les autorités ont annoncé la fin de l'engagement de leur personnel dans tous les organes et instances du G5 Sahel à compter du 30 juin 2022. C'est ce que ressort d'une correspondance adressée par le général Diarra au commandant de la force conjointe du G5 Sahel. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Dans cette correspondance, le chef d'état-major général des armées du Mali, le général Oumar Diarra, dit faire part de la décision qui met fin à l'engagement des personnels maliens en service au sein du G5 Sahel à compter du 30 juin 2022. Il ajoute que toutes les dispositions sont en cours pour rapatrier les personnels concernés dans les délais requis. Le 15 mai dernier, la junte malienne au pouvoir a annoncé son retrait du G5 Sahel et sa force anti-djihadiste, un partenariat militaire avec 4 autres pays que sont le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le Mali accuse l'organisation d'être instrumentalisée par l'extérieur et dit avoir été empêché d'assurer sa présidence pour mieux l'isoler selon Bamako. Ce retrait survient après l'annonce début mai par la junte de la fin d'un traité de coopération datant de 2014 avec la France et des accords de 2013 et 2020 sur la présence de la force Barkhane et des forces spéciales européennes Takuba au Mali.
L'armée togolaise a repoussé dans la nuit de mercredi à jeudi une nouvelle attaque dans l'extrême nord-ouest du Togo, à la frontière avec le Burkina Faso. La nouvelle attaque par des hommes armés s'est produite dans la localité de Gulingushi et n'a fait aucun mort ni blessé côté Togo, a affirmé un haut responsable militaire sans donner davantage de détails. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, 6 pêcheurs nigérians ont été tués par des djihadistes dans l'extrême nord du Cameroun, ont indiqué jeudi à l'AFP un responsable de l'administration et un officier de gendarmerie. L'attaque a eu lieu dans la zone du lac Tchad, aux confins du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad, qui sert de repère aux assaillants. Le principal candidat de l'opposition Nigeria, Atiku Abubakar, a désigné jeudi son colistier pour la présidentielle de février prochain en la personne de Ifeanyi Okowa, le gouverneur de l'État du Delta dans le sud-est du pays. Atiku, comme l'appellent les Nigériens, est de confession musulmane originaire du nord-est, tandis que Ifeanyi Okoa est un chrétien de 62 ans. Toujours au Nigeria, 35 adolescentes ont été sauvées d'un hôtel du sud-ouest du pays où un réseau de trafiquants les forçait à se prostituer et à donner naissance à des enfants qui étaient ensuite revendus. C'est ce qu'a annoncé la police locale. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les adolescentes âgées de 14 à 17 ans ont été secourues dans l'état d'Anambra dans un hôtel où elles étaient utilisées comme esclaves sexuelles pour la prostitution et la fabrication de bébés, a expliqué le porte-parole de la police locale Tachuku Ikenga dans un communiqué. Quatre de ces adolescentes étaient enceintes, a-t-il précisé, ajoutant que des armes et de l'argent liquide avaient été retrouvés par la police. Trois hommes ont été arrêtés sur les lieux, tandis que le propriétaire de l'hôtel est en fuite selon les autorités, qui précisent que tous les suspects seront traduits en justice à la fin des enquêtes. Le trafic humain, qui inclut la prostitution forcée et la vente d'enfants, est le troisième crime le plus répandu au Nigeria, derrière la corruption et le trafic de drogue selon les Nations Unies. Le sud-est du Nigeria est particulièrement touché par ces trafics de femmes et d'enfants. Plusieurs maternités illégales ont été découvertes dans cette partie du pays ces dernières années.
Vaste grève en Tunisie sur fond de profonde crise politique, vol annulé, transports publics immobilisés et bureaux de poste fermés. Cette grève de 24 heures à l'appel de la puissante Union Générale Tunisienne du Travail a paralysé jeudi le secteur public en Tunisie. Observé dans toutes les villes, elle concerne théoriquement quelques 3 millions de salariés. Le taux de malnutrition a récemment explosé dans l'est et le sud de l'Éthiopie en raison de la sécheresse. Et plus de 185 000 enfants souffrent de la forme la plus grave de sous-alimentation, annonce jeudi Save the Children. Cette sécheresse affecte plus de 8 millions de personnes en Éthiopie. À travers tout le pays, 30 millions de personnes, dont 12 millions d'enfants, ont besoin d'aide humanitaire, estime Save the Children.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre italien Mario Draghi sont en visite à Kiev. Ils s'y trouvent pour apporter leur soutien aux autorités ukrainiennes en pleine guerre avec la Russie. Le point avec Mohamedou Oumf.
Pour leur première visite en Ukraine depuis le début de la guerre, les trois dirigeants européens arrivés à Kiev jeudi matin à bord d'un train spécial sont allés vers la ville d'Irpin, une des banlieues de la capitale dévastée lors des premières semaines du conflit. Le président roumain Klaus Ioannis, qui voyageait séparément, les a rejoints dans la capitale ukrainienne. Durant cette visite, nous ne voulons pas seulement manifester notre solidarité, nous voulons aussi assurer que l'aide que nous organisons se poursuivra, a assuré le chancelier allemand Olaf Scholz. Les quatre dirigeants sont ensuite retournés dans le centre de Kiev pour des entretiens avec le président Zelensky. Le président Zelensky a accepté une invitation à participer au prochain sommet du G7 du 26 au 28 juin à Bavière, a indiqué le chancelier allemand, sans préciser si M. Zelensky, qui n'a pas quitté l'Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février, ferait le déplacement ou interviendrait en visioconférence. Les 27 pays européens doivent décider lors d'un sommet les 23 et 24 juin s'ils accordent dans un premier temps à l'Ukraine le statut officiel de candidat à une adhésion. La Commission européenne doit faire connaître sa recommandation vendredi.
Le ministre américain de l'Agriculture a appelé jeudi la Russie à accepter rapidement une ouverture des ports ukrainiens afin de permettre aux millions de tonnes de céréales qui sont stockées d'être exportées au terme de multiples discussions à l'ONU. Moscou devrait agir immédiatement pour ouvrir ses ports et mettre fin à cette guerre, a souligné le ministre lors d'une conférence de presse. C'est une chose sérieuse, nous ne devrions pas utiliser la nourriture comme une arme, a-t-il insisté. Le Conseil de l'Europe s'est dit jeudi très préoccupé et a condamné les violations des droits humains commises par les autorités occupantes de la Russie contre les minorités ethniques en Crimée, temporairement occupées. Le comité des ministres, organe exécutif du Conseil de l'Europe, réaffirme qu'il ne reconnaît pas l'annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol par la Fédération de Russie indique dans un communiqué le Conseil de l'Europe, vigile des droits humains sur le continent. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, signée Nathalie Barge.
Les immigrés du monde entier ont envoyé en 2021 plus de 600 milliards de dollars à des proches dans des pays à faible revenu, indique le Fonds international pour le développement agricole. L'Afrique, qui a reçu 94 milliards de dollars, a le marché des transferts d'argent le plus coûteux, note le FIDA. La moyenne des commissions sur le continent est de 7,83% contre 6% dans le monde. La foire commerciale des pays de l'Organisation de la coopération islamique se déroule à Dakar jusqu'au 19 juin. Une étude présentée hier montre que l'Afrique est en dessous des 7% d'investissement au sein de l'OCI. Près de 73% des investissements internes ont été réalisés par les pays arabes, précise ce rapport. Au Gabon, Libreville accueillera le 29 août la Semaine africaine du climat pour préparer la COP 27 en novembre en Égypte. La question des inégalités sociales liées au développement durable sera abordée, indique ONU Climat, soulignant que les efforts du changement climatique ont fait perdre 20% de croissance aux pays les plus exposés depuis l'an 2000.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football d'abord, 1000 tentes traditionnelles pour loger des supporters au Mondial 2022.
Oui, le Qatar, qui attend 1,2 million de supporters pendant le Mondial 2022, prévoit d'installer 1000 tentes traditionnelles bédouines dans le désert pour loger les visiteurs. L'annonce est faite par les organisateurs. Ces camps disposeront de l'électricité grâce à des générateurs, de l'eau courante et de l'évacuation des eaux usées, mais elles ne seront pas climatisées, a expliqué Oumar Al-Jaber, responsable de l'hébergement au sein du comité d'organisation. Un camp luxueux de 200 tentes sera aussi ouvert. Des appartements, des villas ainsi que des cabines dans des bateaux de croisière amarrés dans le port de Doha figurent aussi parmi les hébergements proposés. Une grande partie des chambres d'hôtel du pays ont été pré-réservées par les organisateurs pour les équipes, les arbitres, les officiels et les médias, fait savoir Oumar Al-Jaber. Pour rappel, 5 pays africains sont qualifiés pour ce mondial, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, le Maroc et la Tunisie.
Et dans les transferts, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, dit que Kylian Mbappé a cédé à une pression politique et économique.
Le président du Real Madrid n'en démord pas, il accuse l'attaquant du PSG d'avoir cédé à des pressions politiques et économiques pour renouveler son contrat avec le club français. Il a toujours déclaré que son rêve était de jouer au Real Madrid et à environ 15 jours avant d'annoncer sa décision, la situation avait changé à cause de la pression politique et économique qu'il a subie, estime Florentino Pérez. D'après le président du Real, la pression politique, l'argent et le leadership sportif ont fait basculer la balance du côté du PSG. Je le comprends parce que ce n'est pas facile de recevoir un appel du président de la République, a poursuivi Florentino Pérez. Kylian Mbappé et Emmanuel Macron ont échangé au téléphone avant que l'attaquant français ne prenne sa décision de rester au Paris Saint-Germain.
Toujours en Espagne, Yacouba, Dani Alves quitte une deuxième fois le FC Barcelone.
Le défenseur international brésilien a annoncé son départ du FC Barcelone. Aujourd'hui, il est l'heure de se dire au revoir, a écrit le latéral droit sur Instagram, évoquant ses plus de 8 années dédiées à ce club. Dani Alves a repris le maillot catalan en janvier, après 5 années passées entre la Juventus, le Paris Saint-Germain et le club brésilien de Sao Paulo. Il y a disputé au total 408 rencontres. Le footballeur de 39 ans est le joueur le plus titré de l'histoire du football, avec 43 titres glanés au cours de sa carrière, le dernier en date étant une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Enfin, en basketball, le match numéro 6 de la finale NBA se joue ce soir.
Oui, les Golden State Warriors, qui mènent 3-2, sont à une victoire d'un 7e titre de champion. En quête d'un 18e titre record, les Boston Celtics devront réagir ce soir dans leur TD Garden pour arracher un 7e match décisif prévu dans ce cas-là dimanche à San Francisco.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kizado, retour avec vous. Place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, les autorités ont décidé jeudi de combattre la stigmatisation et la chasse à l'homme visant les rwandophones dans ce pays. Le M23, une rébellion à dominante Tutsi, soutenue par le Rwanda selon Kinshasa, occupe plusieurs localités de l'Est. Mais Kigali dément ces allégations. Eddie Isango, adjoint à Kinshasa, Mushikonke Mwamus Mwamba, coordonnateur de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est CNDH, une institution gouvernementale.
Moi, personnellement, je n'ai pas suivi cette mesure parce que je viens d'une région qui concernait aussi par les conflits armés, donc l'Ituri. Là où je viens, je n'ai pas suivi. Mais si le gouvernement a pris cette mesure, moi, je pense que c'est une bonne mesure. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui se respecte ne peut pas encourager les antivaleurs. Et nous, comme institution nationale des droits de l'homme, nous soutenons toujours les valeurs, c'est-à-dire les bons comportements qui cadrent au respect des droits de l'homme. La discrimination, la chasse à l'homme, nous, chez nous, nous condamnons. De la même manière, nous condamnons l'agression, nous condamnons la rébellion, nous condamnons la présence de groupes armés dans les régions concernées. Nous condamnons aussi tout comportement tendant à aller à la chasse à l'homme ou à aller dans le sens aussi de discrimination, parce que la discrimination n'est pas une valeur à protéger. Tout comme la chasse à l'homme n'est pas une valeur à protéger. Alors, tout ce qui a comme comportement de violation des droits de l'homme, nous condamnons en tant qu'institution nationale des droits de l'homme.
Mais qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour que cela ne s'efface plus, la stigmatisation? Parce qu'on a parlé d'un colonel rwandophone qui a été pourchassé à Kisangani. Les vidéos ont circulé hier à Goma. Des manifestants se sont pris à des rwandophones. C'est la population.
Oui, moi je pense que le problème qu'on doit examiner à fond, ce n'est pas... Moi, je pense que la logique est vraie. Il faut qu'on s'attaque aux causes. Parce que tant qu'on ne s'attaque pas aux causes et qu'on s'attaque aux conséquences, à ce moment-là, il y a un problème de compréhension et de justice dans la compréhension des choses. Donc, moi, je trouve, en tant que journaliste, c'est bien beaucoup plus de sensibiliser, d'attaquer la cause. Parce que tant que la cause existera, les conséquences viendront toujours, vous voyez. Parce que la cause est profonde. Parce que c'est une seule cause, qui est l'envahissement des pays voisins en RDC. Et avec ça, lorsqu'il y a un problème d'agression, directement, la population se révolte. Or, ce qu'il faut voir, c'est comment attaquer la cause qui est la paix dans la région des Grands Lacs. Parce que s'il y a la paix, il n'y aura pas tout ce problème-là. Il n'y aura pas la réaction de la population.
Mushikonke Mwamus Mwamba, coordonnateur de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est CNDH.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
La détermination du Premier ministre conservateur Boris Johnson à dissuader les arrivées clandestines au Royaume-Uni en envoyant des migrants vers le Rwanda est vertement critiquée, notamment par le HCR. Pour en parler, VOA Afrique a joint à Genève Matthew Saltmarsh, un porte-parole du HCR.
C'est vrai qu'il y a des procès devant des tribunaux et il faut voir ce qui va se passer. Mais nous avons exprimé à plusieurs reprises notre forte opposition et nos préoccupations au projet du Royaume-Uni d'externaliser ses obligations en matière d'asile. Et nous avons également exhorté le Royaume-Uni à s'abstenir de transférer des demandes d'asile et les réfugiés vers le Rwanda pour le traitement de leurs demandes. C'est ce qu'on appelle externalisation. C'est-à-dire le transfert forcé des réfugiés et des demandes d'asile vers des pays tiers en l'absence de garanties et de normes suffisantes. Ces dispositifs ne font que déplacer les responsabilités en matière d'asile, constituent un manquement aux obligations internationales et sont incompatible avec la lettre et l'esprit de la Convention des réfugiés de 51.
En envoyant des migrants au Rwanda, Londres entend freiner les traversées illégales de la Manche.
Oui, c'est vrai. On comprend qu'il y a des demandes d'asile et des réfugiés qui essaient de traverser la Manche. Et c'est un problème, mais ce n'est pas un problème unique pour le Royaume-Uni. On va dire qu'il y a beaucoup de réfugiés partout dans le monde. Il y a ceux qui essaient de traverser la Méditerranée et d'autres régions du monde. Et donc, pour nous, c'est plus important de coopérer avec tout le monde, avec toutes les régions, et d'essayer de résoudre ces situations ensemble.
Le HCR critique cet accord entre Londres et Kigali, d'autres organisations de protection des droits de l'homme également, mais le gouvernement rwandais estime qu'il constituait, je cite, une solution à un système d'asile mondial défaillant. Que répondez-vous à Kigali?
En fait, les pays développés n'accueillent qu'une fraction des réfugiés dans le monde et disposent des ressources nécessaires pour gérer les demandes d'asile de manière humaine, équitable et efficace. C'est vrai que le Rwanda a offert généreusement un havre de paix au fil du temps pour ceux qui fuient les conflits et les persécutions. Mais là-bas, une majorité d'entre eux, ils vivent dans des camps avec un accès limité aux opportunités économiques. Donc, c'est pour nous, c'est les pays développés qui doivent soutenir les pays avec moins de ressources, pas l'inverse.
Matthew Saltmarsh, un porte-parole du HCR, joint à Genève.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Aujourd'hui, 16 juin, est célébrée la journée de l'enfant africain. Au Sénégal, cette célébration est entachée chaque année par une situation qui ne s'améliore point, celle des enfants appelés talibés qui mendient dans la rue. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Seuls, par petits ou grands groupes, les enfants talibés ont fini par s'imposer dans le décor de la capitale. Des pots de tomates vides entre les mains, ils parcourent les artères de Dakar et vivent des aumônes qu'ils reçoivent. Une situation anormale mais nécessaire pour eux, d'après Mokhtar Bodjan, un bienfaiteur des talibés.
Quand on se bat pour une situation, on propose des solutions. Celui qui n'a rien à manger est obligé de mendier. En tout cas, je préfère le mendiant au voleur parce que la situation du pays est difficile. Moi qui vous parle, tous mes amis sont des enfants talibés. Ils viennent, je leur donne de l'aumône parce qu'ils en ont besoin. De toute façon, celui qui n'a rien à manger et n'est pas capable de voler fera de la mendicité pour survivre.
Une réalité qui déplaît fortement à Ndaye Safiatou. Pour cette mère de famille, ses enfants ne devraient pas être laissés à eux-mêmes.
Un enfant doit être protégé, aimé et chéri. Il faut saluer les ONG qui prennent en charge les enfants mendiants en leur attribuant des foyers. D'autre part, l'État doit aussi prendre toutes ses responsabilités pour venir aux besoins de ses enfants, qui ne sont rien d'autre que des victimes.
De son côté, Pape Mor, un bénévole qui travaille dans une association qui aide les talibés, estime que les familles et l'État doivent prendre leurs responsabilités.
C'est les parents qui doivent veiller à ce que leurs propres enfants ne soient pas exposés dans les rues pour exercer la mendicité. Déjà, c'est un délit pénal, parce que ça fait partie des 45 délits mineurs. La mendicité est un délit pénal. L'État a le droit d'extraire les enfants qui sont dans les rues exerçant la mendicité et les remettre soit à leurs parents ou bien les remettre dans des structures sociales. Je suis foncièrement contre la mendicité.
Au Sénégal, l'État a plusieurs fois annoncé le retrait des enfants talibés de la rue. Mais les pressions, notamment religieuses, sont un réel frein à l'effectivité de cette mesure. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, l'opération de déguerpissement des populations habitant dans les zones à risque avant l'arrivée des pluies diluviennes a démarré à Abidjan par la commune d'Abobo. 54 sites dans 9 communes ont été identifiés et listés pour la démolition par le gouvernement. Les échos avec Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan.
Dans la commune d'Abobo, 2 sites sont concernés, les quartiers Désert et Abobo-Kouletcha. C'est la première étape d'une série d'opérations de déguerpissement. Au quartier Désert, la population a déjà reçu une sommation du gouvernement de vider les lieux le plus tôt possible, au grand désarroi et mélancolie des habitants. Salimata Konate est mère de 7 enfants.
On ne peut pas ne pas quitter ici. On a beaucoup d'enfants. Rien est devenu cher. Elle m'a dit chez quel parent et puis ils vont te loger. Il y a pas.
Pour Dame Samka Djeneba, c'est la confusion sur les délais impartis pour quitter les lieux.
On dit que le papier était donné pendant 2 mois. Mais nous, on n'a pas reçu des papiers.
Mamadou Ouattara, lui, en appelle à la générosité de l'État.
Si l'État pouvait nous aider, vraiment, ça allait nous faire plaisir. Même si c'est pour nous donner la caution.
Adama Kone, la 60aine révolue, a habité ce quartier pendant plus de 25 ans, abonde dans le même sens. Il affirme avoir reçu la mise en demeure, mais il n'avait aucune idée de la date de l'exécution de l'opération.
On n'est pas tout à la mairie, mais vraiment, on ne peut pas vraiment recevoir à la mairie. Plus de quitter. Personne ne peut faire, pas de faire avec l'État.
À Bobo-Kouletcha, l'ambiance est aussi délétère lorsque le 13 juin, la population reçoit une visite inopinée du ministre de l'Assainissement, accompagné de son service technique, celui de la mairie d'Abobo et des forces de l'ordre. Ici, la menace de glissement des terrains sur les maisons est permanente. L'opération a démarré par la destruction des murs pour ne laisser que du gravat. Pour sa part, le ministre de l'Assainissement, Bouaké Fofana, explique l'objectif d'une telle opération.
C'est vraiment une opération de sauvegarde de vie. Ne souhaitons pas que chaque saison de pluie rime avec des pertes en vies humaines, des maisons qui sont au bord des ravins. Quand il y a une grosse pluie, la maison glisse avec les habitants. Tout est discutable après, mais on ne peut pas les laisser vraiment dans cette situation.
Le vieux Bakari Kone, près de 80 ans, est debout au milieu des décombres de sa maison, son seul bien.
Ngaloumea depuis 80.
Je vis dans ma maison depuis 1980. Il n'y avait pas de trou. La maison a un titre de propriété. Je n'ai pas été dédommagé. Où vais-je aller?
Siaka Traoré, âgé de 60 ans, est en situation de handicap, polygame, marié à 3 femmes avec 14 enfants.
Je suis malade, je suis infirme, je ne marche pas. Donc, je n'ai pas de moyens d'aller chez les maisons.
Et selon le ministre Bouaké Fofana, le cas de Siaka Traoré est un cas de force majeure à traiter rapidement.
Comme j'ai dit, ceux qu'on nous paye, qui n'avaient pas où aller, on les a mis dans des hôtels en attendant.
L'opération de déguerpissement va continuer jusqu'à fin juin et la Sodexam, la société spécialisée dans la météo, prévoit de la pluie et encore de la pluie dans les jours à venir. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Congrès américain revisite l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, l'un des événements les plus marquants de l'histoire politique récente des États-Unis. Les audiences télévisées qui ont débuté la semaine dernière ont pour but de déterminer la responsabilité ou non de l'ancien président Donald Trump dans les violences qui ont eu lieu le jour de la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020. Avec nos analystes, nous évoquerons l'importance de ces audiences et les leçons à tirer de l'assaut contre le Capitole. Ce sera ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOAAfrique.com.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal, Gisèle Morissin, Georges Léonard Sagno et Michel Claire-Joseph. À la présentation, Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur le site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.